De l'autre côté de la rive, il n'y a plus de douleur. Là règne que la joie. De l'autre côté de la rive, on ne pleure plus. De l'autre côté de la rive, là habite mon Seigneur. De l'autre côté de la rive, il n'y a plus de douleur. Ceci est le jour que le Seigneur a fait. Ceci est le jour que le Seigneur a fait. Nous voulons être heureux et reconnaissants. Laissez la parole et l'esprit agir, car c'est le jour que le Seigneur a fait. Je voudrais lire une parole de Dieu dans le psaume 34. Ce que cet homme de Dieu autrefois a exprimé, et c'est encore une bénédiction pour nous aujourd'hui dans ces jours. Et il le dit ici dans le psaume 34 à partir du verset 2, je louerai l'Éternel en tout temps. Est-ce que nous voulons aussi? Nous voulons en tout temps louer le Seigneur. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Oui, si cela pourrait être ainsi avec nous tous, que toujours sa louange serait dans notre bouche, que mon âme se glorifie en l'Éternel. Oui, il y en a qui se glorifient dans leur bien, dans leur argent. Mais Christ est notre. Nous voulons nous glorifier dans le Seigneur de ce que nous lui appartenons. Pas appartenant à une église ou bien à un endroit, mais à appartenir au Seigneur. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les humbles l'écoutent et se réjouissent. Nous nous réjouissons, oui, quand un homme parle de ce qu'il a expérimenté avec Dieu. Exaltez avec moi l'Éternel et célébrons tous ensemble son nom. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Ça, l'Écriture l'a toujours exigé et ensemble, quand ils se rassemblaient aussi dans l'ancienne alliance, ils ont ensemble élevé leur voix au Seigneur et ils ont apporté la reconnaissance au Seigneur. Et il veut que nous puissions aussi le faire aujourd'hui. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Oui. Nous pouvons dire, en réalité, David, tu vas passer par beaucoup de choses, mais le Seigneur l'a délivré de toutes ses frayeurs. Et il nous délivre aussi de toutes nos frayeurs, si nous mettons notre confiance en lui. Comme c'est merveilleux, sont ses œuvres. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. Est-ce que cela n'est pas un témoignage merveilleux? Oui, un témoignage pour nous jusqu'à dans ces jours. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous êtes saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Louez, exaltez, reconnaissez et remerciez son nom. Nous voulons encore lui dire merci et nous lever pour le faire. Seigneur, notre Dieu, nous te remercions pour tes paroles précieuses que nous trouvons dans les Saintes Écritures. Nous te remercions, Seigneur, de ce que tu as secouru des hommes qui regardaient à toi. Et aussi, tu nous as secourus, tu nous as délivrés, tu nous as rachetés. Tu as toujours fait grâce à ceux qui ont regardé à toi. Seigneur, nous te faisons confiance et donnons à toi seul l'honneur et la louange et l'adoration. Sois avec nous encore pendant ces heures. Bénis ton peuple, tous ceux qui sont venus, bénis de la plénitude de ta grâce. Bénis aussi ta parole alors que nous allons l'écouter. Bénis aussi les enfants qui vont être présentés. Sois avec nous. Nous te remercions dans ton merveilleux nom de Jésus. Amen. Amen. Loué et remercié soit le Seigneur notre Dieu pour sa fidélité, pour sa grâce, pour sa parole, pour tout ce qu'il nous a déjà accordé, déjà donné et aussi pour ce qu'il va et ce qu'il a préparé pour nous aujourd'hui. Des salutations paternelles et fraternelles à tous. Soyez la bienvenue cordialement dans le nom précieux de notre Seigneur. Puis-je demander qui serait aujourd'hui ici pour la première fois? Avons-nous quelqu'un? Levez-vous s'il vous plaît. Qui est aujourd'hui ici pour la première fois? Oui, mais ça c'est... Ça c'est merveilleux, c'est merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Nous espérons que ce n'est pas la dernière fois. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Très bien. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. C'est très bien. Le frère Di Prossimo de Liège est venu avec toute l'église, cette voiture, pour aujourd'hui être ici. C'est merveilleux, c'est bien de ce que nous pouvons venir sous l'écoute de la parole de Dieu. Nous avons nos amis de la Slovaquie qui aussi sont venus avec tout un bus, des amis de la Roumanie, une fois 15 personnes et les autres qui se sont encore ajoutés, des amis de la Suède, des amis et des frères de toute l'Europe. Et nous sommes reconnaissants aussi pour tous nos frères dans le ministère. Nous avons aussi un frère ici d'Atlanta, Georgia, aux États-Unis. Est-il ici? Voudrais-tu, s'il te plaît, te lever? Oui. Sois la bienvenue d'Atlanta, Georgia, aux États-Unis. Et comme déjà dit, tous les frères et toutes les sœurs, que ce soit de la Tchèque, de partout, nous vous souhaitons à tous toujours la bienvenue. Vous êtes toujours la bienvenue. Le frère Schmitt a donné une feuille avec des salutations de la Moldavie, des salutations de l'Ouzbékistan, des salutations de l'Ukraine. Et pour moi, c'est quelque chose de merveilleux. Quand j'entends que nos frères et nos sœurs, aussi dans les États, donc autrefois le bloc de l'Est, mais maintenant c'est presque une Europe unie, qui puisse aussi maintenant entendre en direct et voir en direct et expérimenter en direct les réunions. Est-ce que cela n'est pas merveilleux de ce que Dieu a de cette manière ouvert les frontières? Il y a des années passées, le frère Branham, des années très lointaines en arrière, frère Branham déjà disait que quand la séparation, la division de l'Est et de l'Ouest aura lieu et que le mur de Berlin tombera, c'est ainsi que l'État sera ainsi tel que c'était du temps de l'Empire romain. Autrefois, nous savons que les contrats romains, depuis les contrats romains, 50 ans sont passés, nous avons tous compris combien... à quel point l'horloge du monde a frappé et que nous ne vivons pas seulement à la fin des temps, mais que nous sommes arrivés à la fin de la fin des temps. Et le frère Branham a aussi parlé de l'union des signes, de l'union des temps. Et nous voyons aussi dans notre temps que tout est en train de s'unir, l'économie, tout sont en train de s'unir et de faire des alliances, comme déjà nous l'avons écrit. tout en une, tout dans une seule main, tout dans une seule main. Mais Dieu, le Seigneur, remportera la victoire, même si nous devons encore un peu attendre, mais nous attendons réellement dans notre temps au retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Oui, nous attendons réellement à cela et nous croyons ce que le Seigneur disait, que nous pouvons reconnaître au signe des temps, nous devons reconnaître au signe des temps. Et ça, c'est justement comme un écriteau sur la muraille, sur le mur, comme du temps de Daniel, l'écriture était sur le mur, l'écriture était sur le mur, mais elle devait être lue, elle devait être comprise par la grâce de Dieu. Ensuite, nous avons aussi nos frères ici, encore une fois, tel que nous le disions déjà hier, de l'Amérique du Sud. Nous avons les trois frères déjà que nous avons appelés. Ensuite, nous avons encore un frère que nous avons reçu, qui s'est ajouté à leur nombre, de l'Angola. Je ne sais pas où est-ce qu'il est en ce moment, où est-ce qu'il est assis. Nous sommes simplement reconnaissants pour tous les frères, des frères qui parlent la langue portugaise. Et nous sommes reconnaissants pour notre frère Helmut Miskis et de son frère Claudio Miskis qui sont nés au Brésil et qui maîtrisent la langue, connaissent la langue et justement ont contribué, ou bien alors en général, eux sont responsables de ce que aussi la nourriture soit distribuée dans les langues, dans la langue portugaise, et que Dieu bénisse notre frère Helmut Miskis particulièrement. Nous remercions aussi notre frère Erwin Pacheco de tout notre cœur pour la traduction en espagnol, et nous remercions tous nos frères, il y en a 12 en tout, qui en haut dans les cabines sont assis et traduisent simultanément pour que dans le monde entier la nourriture puisse être distribuée et que tous dans le monde entier, tous les hommes puissent entendre la parole et être informés de ce que Dieu dans notre temps ou bien pour ce temps a préparé pour son peuple et ce qu'il par sa grâce a à nous dire. Nous sommes réunis en son nom pour écouter sa parole, pour accepter la correction et nous laisser apporter en accord avec lui et sa parole. Encore, je vous souhaite la bienvenue et d'ici nous saluons aussi aujourd'hui tous nos frères et nos sœurs qui écoutent en direct dans toute l'Europe et dans le monde entier. Des appels sont venus déjà aujourd'hui très tôt le matin de Johannesburg, de Kinshasa, de la Côte d'Ivoire. Des appels sont venus d'ici et de là et de partout. Nous sommes simplement reconnaissants, oui, du Chili. Oui, nous sommes très, très reconnaissants pour les possibilités que Dieu nous a accordées d'être ainsi en contact avec le monde entier, c'est-à-dire avec les croyants du monde entier, pour que tous puissent être apportés à marcher dans le même pas, c'est-à-dire en recevant le même enseignement, et ainsi pour que l'Église épouse réellement devienne un seul cœur et une seule âme, puisse le devenir, et qu'ensemble, dans le monde entier, nous puissions expérimenter ensemble l'œuvre de Dieu puissante dans sa grâce. Pour achever, laissez-moi lire une parole dans Apocalypse chapitre 22. Une parole dans Apocalypse chapitre 22 à partir du verset 10. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, et que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi. Pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Prions, ô grand Dieu, nous te remercions de tout notre cœur pour ta sainte parole. Tu es celui qui parle. Tu as été celui qui parle au commencement et tu l'es encore maintenant à la fin. Et nous te remercions de ce que nous avons la grâce d'être réunis en ton nom et d'appartenir à ceux qui ont été justifiés par la foi en Jésus-Christ notre Seigneur et qui ont été sanctifiés dans la vérité et qui veulent encore plus se sanctifier, être sanctifiés dans la vérité, jusqu'à que nous parvenions à la perfection, à l'achèvement de ton œuvre. Nous t'en supplions, sois d'une manière particulière présent parmi nous, parle avec nous, et à toute ton Église, dans le monde entier, à toi, le Dieu Tout-Puissant, nous apportons toute la reconnaissance pour tout, et cela, dans le saint précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est vraiment un privilège de ce que, sans être dérangé ainsi tranquillement, nous pouvons être rassemblés pour écouter la parole, pour accepter l'enseignement et d'une manière nouvelle, toujours de manière nouvelle, être bénis. De l'Épître aux Philippiens, je voudrais rapidement lire dans Philippiens chapitre 3 pour nous représenter devant les yeux que le temps est arrivé où nous devons marcher ayant le chemin, le but devant les yeux, c'est-à-dire avoir le but devant les yeux, car nous savons où est notre place. Dans Philippiens chapitre 3, à partir du verset 12, et ensuite au verset 14, il est dit, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. » Puisque moi aussi j'ai été saisi par Christ. As-tu été saisi par lui? Est-ce que sa parole a pénétré ton cœur? Est-ce que tu as entendu son appel? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos pour vos âmes. Et ensuite, le témoignage est merveilleux. Au verset 13, la deuxième partie, « Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but. Je cours vers le but, verset 14, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. C'est une vocation céleste liée à un prix qui nous a été adressé. Et celui qui l'accepte confirme d'avoir été élu, prédestiné avant même la fondation du monde. Confirme par cela, d'avoir expérimenté l'adoption par Jésus-Christ notre Seigneur, le Fils de Dieu, comme Paul l'a écrit dans Galates 4, verset 4, et dans d'autres versets. Ensuite, au verset 15, nous tous donc, qui sommes des hommes faits, qui avons le but devant les yeux, ayons cette même pensée. Nous voulons diriger, fixer nos yeux sur le but. Et ensuite, si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Nous venons, n'est-ce pas, de différentes confessions, professions de foi, directions de foi, église et église libre, et chacun amène encore quelque chose de ses religions. Mais le temps arrive ensuite où nous devons nous détacher entièrement et nous dépouiller de tout ce qui n'a rien à voir à faire avec Dieu et sa parole. Alors le temps arrive où l'enseignement est adressé à nous et que réellement nous sommes ramenés à l'état primitif et au commencement et seulement poser qu'une seule question comme Paul l'a posé dans Romains 4. Que disent les Écritures? Que disent les Écritures? C'est toujours ce que nous devons poser comme question en toute chose, car c'est en cela que tout est contenu. Que disent les Écritures sur la fin des temps? Que disent les Écritures sur l'état de l'Église? Que disent les Écritures en relation avec Israël? Que disent les Écritures? Que disent les Écritures? Ici, en cet endroit, les Écritures ne sont pas interprétées. Ici, les Écritures sont lues dans leur forme originale. Non, original, et ainsi que nous croyons réellement tel que c'est écrit. Et ça, c'est justement le privilège que Dieu nous a accordé d'avoir la crainte devant sa parole et de la recevoir telle qu'elle nous a été adressée, telle qu'elle nous a été confiée. Hier, nous avons parlé de ce que Dieu, dans l'Église, a établi des ministères. Il a établi des ministères en Israël qui étaient d'une signification liée à l'histoire du salut. Pour venir encore rapidement à parler de Moïse, c'était Dieu lui-même qui avait déjà donné à Abraham la promesse dans Genèse 15, verset 13, qu'après 400 ans, je vous ferai sortir de la captivité, de la servitude. Et le temps était arrivé. Et Dieu, ainsi, d'une manière surnaturelle, dans un buisson ardent, s'est révélé à son serviteur et prophète Moïse, qui gardait le troupeau de son beau-père. Bien-aimés frères et sœurs, et Dieu dit, j'ai vu la misère de mon peuple. J'ai entendu leur cri et je pense aux promesses que j'ai faites, que j'ai données. Et Moïse a été ainsi établi pour que cette promesse soit réalisée et que ces promesses-là soient exécutées. C'était un ministère en directe relation avec l'accomplissement de ce que Dieu avait promis. Ensuite, nous avons lu que Moïse, mandaté par Dieu, commissionné par Dieu, a imposé les mains à Josué et l'a établi dans son ministère pour continuer le ministère. Et tel que Dieu était avec Moïse lors de l'Exode, c'est ainsi qu'il était avec Josué lors de l'entrée dans le pays. Et lors de la distribution du pays de la promesse, chaque tribu a reçu sa région. Chacun savait exactement où étaient leurs limites, leurs frontières, et chacun savait où était leur place. 12 tribus d'Israël, 12 apôtres, et celui qui lit sur la nouvelle Jérusalem dans Apocalypse 21, la nouvelle Jérusalem a 12 colonnes. La nouvelle Jérusalem a 12 portes et sur les unes, sur l'une est écrit le nom des 12 apôtres et sur les autres le nom des 12 tribus d'Israël. Israël, les élus d'Israël et les élus de l'Église vont ensemble. Et c'est ainsi que lors de la résurrection de notre Seigneur, selon Matthieu 27, tous les saints qui avaient cru dans leur époque et qui allaient avoir part à la résurrection de tout l'aspect du temps de l'Ancien Testament sont ressuscités avec Christ. C'est ainsi que c'est écrit. Et beaucoup ont apparu, ils ont apparu à plusieurs dans la Sainte Ville. Et maintenant, dans l'accomplissement ou bien lors de l'accomplissement de l'achèvement de l'Église épouse, constituée de tous les peuples, les langues et les nations, l'enlèvement a lieu. Et ensuite s'accomplit qu'avec Abraham, Isaac et Jacob, avec tous les justes achevés qui ont cru Dieu dans leurs différentes époques et qui ont respecté Dieu dans leurs époques, avec eux ensemble, nous allons fêter le grand festin dans la gloire. Dans Matthieu 22, nous lisons concernant le festin que le roi a préparé à son fils et il a envoyé des serviteurs pour inviter. Dans Matthieu 25, il est parlé aussi d'un festin que tous celles qui furent prêtes entrèrent au repas des noces et les portes se sont fermées. De telles choses n'ont pas besoin d'être interprétées. Elles ont lieu telles que Dieu dans sa parole l'a dit. Aussi sûr ce qui se passe à l'intérieur de l'Église maintenant. On n'a vraiment pas besoin d'un huitième messager. On a vraiment besoin de personne qui se présente lui-même et présente son ministère et dit, maintenant, c'est à moi de commencer et d'accomplir. Je suis celui qui doit accomplir Matthieu 25, le verset 6. Donc, sans considérer cela, qu'il y a toujours des frères qui apparaissent avec des enseignements qui apportent de la confusion et du désordre et de la division. Il faut qu'il soit dit que celui qui est réellement de Dieu aura le discernement et fera la différence. Est-ce que ce qui est enseigné, est dit et prêché est réellement en accord avec ce qui est écrit? Et aussi là, on doit de nouveau aller de verset biblique en verset biblique pour laisser seulement les Écritures parler, pour que dans l'équilibre, nous puissions avoir la prédication de la parole et la prêcher et la porter et aussi demeurer nous-mêmes dans l'équilibre et la sobriété pour que le Seigneur, jusqu'à la fin, puisse nous conduire et ce que réellement nous passions de la foi à la vue. Hier, j'ai déjà un peu parlé de ce qui existe aussi à l'intérieur du message de la fin des temps, comme enseignement et tout ce qui est apporté et enseigné, c'est incompréhensible, incroyable, de ce que des hommes réellement ne considèrent même pas la parole de Dieu, mais font que donner tous leurs efforts pour présenter leurs enseignements. Alors, de cet endroit, nous devons dire que seulement ce qui est écrit est la parole de Dieu. Et si, par exemple, il est parlé des sept tonnerres, et il a été dit des sept tonnerres, que ne n'écris pas, mais celles ce qu'ils ont dit. Alors moi, j'ai du respect pour cela. Alors je sais que Dieu l'a décidé ainsi, et les choses restent ainsi. Si ensuite, un frère se tient devant moi et me dit, tu ne crois pas le message. Et que je lui réponds, mais je le prêche dans le monde entier. Et alors il me dit, non, tu ne le fais pas, car le message, c'est les sept tonnerres. Et alors que à ce bien-aimé frère, vous savez tous, c'était à Johannesburg. Alors qu'à ce bien-aimé frère, je demandais, mais que sont les sept tonnerres? Sa réponse a été, c'est une révélation. Alors que je lui demandais, mais qu'est-ce que c'est que cette révélation? Alors il a dit, c'est un mystère. Et aussi là, vous le savez, j'ai laissé la tasse de thé à moitié et j'ai dit, s'il te plaît, j'ai dit au frère, s'il te plaît, ramène-moi à l'hôtel. Des hommes, et ça je le dis ouvertement, et je ne veux pas maintenant parler du frère, je le dis comme ça en général, des hommes qui sont confondus dans leur tête, dans leur cœur et dans leur enseignement. Il s'agit vraiment de ce que nous puissions respecter la parole de Dieu et ne pas aller au-delà des Écritures, ne pas aller plus loin que les Écritures. Et il n'y a pas longtemps, il y a un frère qui me disait qu'il s'agit aussi des sept tonnerres qui ont retenti alors que l'ouverture des seaux allait avoir lieu. Et ça, c'est vrai. Et là, nous devons faire la différence. Il y a eu réellement une détonation le 28 février en 1963, avant l'ouverture des seaux. D'une manière que frère Branham, sous un ordre du Seigneur, est allé dans la montagne. Et c'est là que cela s'est passé. Que sept tonnerres puissants ont ébranlé toute la région. Et frère Branham regardait vers le ciel et a vu se former ce nuage surnaturel. Et c'est là-bas qu'il lui a été dit qu'il doit repartir à Jeffersonville parce que les sept tonnerres vont être ouverts. Et nous sommes satisfaits avec ça. Nous sommes satisfaits. Nous disons simplement amen à cela. Cela n'a pas besoin d'une instruction, d'une explication. Ça, nous le croyons qu'il est le prophète promis et déterminé. Il était le prophète promis et déterminé pour cette époque par lequel le Seigneur a révélé les mystères depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse chapitre 22. Mais laissons les choses ainsi, telles que Dieu l'a fait, telles que Dieu l'a déterminé. Êtes-vous satisfait avec ça? Êtes-vous d'accord avec ça? Alors, rien n'a besoin d'être interprété. Cela a eu lieu de cette manière. De la même manière, aussi, c'est la même chose avec l'interruption qui est toujours donnée en ce qui concerne les autres points doctrinaux. En ce qui concerne le retour du Seigneur Jésus-Christ. Seulement deux fois, frère Branham a rapporté le cri de signal, ou bien le cri de commandement de 1 Thessaloniciens 4, avec le message de la fin des temps, disant que le message de la fin des temps est le cri de réveil de 1 Thessaloniciens 4. Mais c'est plus de 200 fois où frère Branham, de manière si claire, est venu à parler de ce que c'est que le message et de ce qu'il contient. Et que depuis que le Seigneur lui a accordé cet ordre, c'est-à-dire disant que tel que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue du Christ, c'est ainsi que tu seras envoyé avec un message qui sera précurseur, ou bien alors qui ira dans le monde entier avant le retour du Christ. Tu es envoyé. C'est plus de 200 citations de frère Branham sont, comme pour dire, même pas considérées. Seulement deux citations sont utilisées et apportées en relation avec 1 Thessaloniciens 4 concernant le signal donné, au signal donné. Et ils disent que, alors, depuis que le message est apporté, le Seigneur est dans la procédure de descendre et de revenir. Mais c'est pas vrai du tout. Mais ici est le point. Cela est fait avec l'esprit bien précis.
avec l'esprit, avec l'objectif, avec le motif précis, que nous puissions bien. Alors le monde entier ne soit pas, ne doit pas savoir que c'est seulement après le retour à la maison de frère Branham que le message a été porté dans le monde entier. Et c'est justement ça qui ne plaît pas à ces gens. Et c'est peut-être raison qu'ils doivent apporter le message à la fin des temps en relation directe avec le retour du Seigneur, comme c'est écrit dans 1 Thessaloniciens 4. Et ils ne respectent pas que c'est seulement après le retour de la maison de Frère Branham que le message a été apporté dans le monde entier et que la paix a sorti et la préparation de l'église épouse a lieu. Toujours, quand l'adversaire donne une interprétation, alors c'est toujours avec un esprit bien précis. C'est pour remettre en question ce que Dieu fait et semer le doute et éloigner l'humanité de ces choses. Ou bien, je ne dis pas cela pour moi. Un appel, ce n'est pas ma chose, c'est la chose de Dieu. Et là, aucun homme a le droit un droit de décision. Vous savez que frère Branham a entrepris seulement 7 voyages internationaux et de toute sa vie, il a seulement visité 12 pays. Et de son temps, le message n'était pas encore connu. C'était en grande partie des réunions d'évangélisation, d'enseignement et de guérison. C'est seulement après son retour à la maison que réellement cela a eu lieu, que la parole a été portée dans le monde entier, pouvait être portée dans le monde entier. Dieu a simplement déterminé les choses ainsi et ça, nous devons le respecter. De la même manière, en ce qui concerne eux, en fait, ce qui est aussi très douloureux, c'est que les gens, les hommes sont en train de se disputer et de diviser des églises partout sur les 70, à cause des 70 semaines de Daniel, sans respecter la parole, sans comprendre que les 70 semaines de Daniel n'ont rien à voir à faire avec nous en tant qu'église. Et là, je voudrais seulement vous lire quelques versets bibliques pour que vous puissiez savoir que cela est réellement écrit ainsi dans la parole de Dieu. Car je suis conscient que, n'est-ce pas, sur terre, il y a beaucoup d'opinions différentes qui existent. Et c'est peut-être raison qu'il faut que cela soit encore dit. Daniel chapitre 9, Daniel chapitre 9, à partir du verset 24. Daniel 9, verset 24. 70 semaines d'années ont été fixées sur ton peuple et sur ta sainte ville pour faire cesser les transgressions. Et ensuite, les 6 points de la signification de ces choses, point après point, jusqu'au nouveau fondement de Jérusalem. Pas jusqu'au nouveau fondement de l'Église, sont ici mentionnés. Et ensuite, les semaines d'années sont mentionnées. Cela ne peut pas être dit plus clair que cela a été exprimé ici dans Daniel 9. Et ce que nous devons tous aussi savoir, c'est la chose suivante. Pourquoi est-ce que cela s'est passé ainsi? Et pour cela, je dois aller dans l'Ancien Testament et lire d'abord de 2 Chroniques, le chapitre 36, Chroniques, le chapitre 36, à partir du verset 19. Chroniques chapitre 36, à partir du verset 19. Ils brûlèrent la maison de Dieu. Ils démolirent les murailles de Jérusalem. Ils livrèrent au feu tous ses palais et détruisirent tous les objets présents. Nebuchadnezzar et mena captif à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée. Et ils lui furent assujettis à lui et à ses fils jusqu'à, et maintenant arrive la phrase importante, jusqu'à la domination du royaume de Perse. Jusqu'à là, c'était l'empire babylonien. Mais maintenant, la domination du royaume de Perse a commencé jusqu'à là, ça devait rester ainsi. Mais maintenant, écoutez bien, au verset 21, « Afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. » Il s'agit toujours de ce que le temps doit être accompli pour que ce que Dieu a promis s'accomplisse. Jusqu'à ce que le pays ait joui de ses sabbats. Il s'agissait jusqu'à ce que le pays ait joui de ses sabbats d'année, en allemand, d'année. Il se reposa tout le temps qu'il fut dévasté jusqu'à l'accomplissement de 70 ans. Vous pouvez le lire. Esdras chapitre 1, verset 1. C'est l'accomplissement. Noir sur blanc, écrit ici. La première année de Cyrus, roi de Perse. Chapitre 1, verset 1. Esdras chapitre 1, verset 1. Afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. Donc, nous remarquons très exactement qu'il s'agit toujours seulement de l'accomplissement des Écritures, et encore une fois, de l'accomplissement des Écritures. Et ensuite, nous avons dans Lévitique, au chapitre 25, s'il vous plaît, ayez un peu de patience, il s'agit de tous les frères dans le ministère, dans le monde entier, qui sont responsables des qui se tiennent devant l'Église et qui doivent, de manière juste, dispenser la parole de Dieu. Ici, dans Lévitique, chapitre 25, au verset 4, il nous a dit les choses suivantes. Lévitique, chapitre 25, verset 4. Mais la septième année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel, un repos consacré à l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ et tu ne tailleras point ta vigne. Tu ne moissonneras point. Il est écrit ici jusqu'à la fin. Ce qui proviendra des graines tombées sur ta vigne. À la fin du verset 5. Ce sera une année de repos pour la terre. Pourquoi une année de repos? 7 fois 7. Et après la septième année de sabbat, venait le grand jour de jubilé. La cinquantième année était l'année de jubilé. Et Dieu, déjà dans l'Ancien Testament, en symbole, en image, a parlé de cette manière avec nous et a montré par Israël ce qu'il s'était proposé de faire. Ce qu'il s'était proposé de faire dans le futur, ici dans Lévitique, chapitre 25, au verset 8, il est écrit, tu compteras 7 sabbats d'années. Donc, 7 fois 7 années. Et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Et après la 49e année, suit la 50e année. Et ça, c'est l'année du jubilé, l'année de grâce, où tous peuvent être libres et repartir dans leur possession. Ici, au verset 10. Et vous sanctifierez la 50e année et vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Et parce que le peuple d'Israël était désobéissant à Dieu, c'est vrai qu'ils ont observé le sabbat. C'était le 7e jour de la semaine. Mais il devait aussi observer, n'est-ce pas, la 7e année. Et pendant cette 7e année, toute l'année ne pas semer, mais laisser la terre se reposer et expérimenter que malgré tout, Dieu prend soin d'eux et qu'il ne manque pas de nourriture. Et de soi-même, il y a assez à manger. Donc pas seulement comme ça. Un jour dans la semaine à observer, mais la 7e année devait aussi être une année de repos, une année consacrée à l'Éternel. Et pourquoi? Pour que, après 7 fois 7, la 50e année, pour qu'elle puisse être publiée, pour que tous ceux qui ont été fautifs soient délivrés, C'est ainsi que nous voyons notre Seigneur dans Luc chapitre 4. Comment est-ce qu'il a annoncé l'année de grâce du Seigneur? Et il a annoncé la délivrance à tous ceux qui étaient affligés et qui étaient surmontés par le diable et qui étaient dans des fautes. Il leur a apporté la délivrance. On doit donc, quand on traite, on parle d'un sujet biblique, on doit, n'est-ce pas, considérer tous les versets qui parlent de ce sujet. Par exemple, et ne rien interpréter. Par exemple, là, 70e semaine de Daniel, ou bien la 70 années de Daniel, dans le dernier apse de son temps. Ici, cela est écrit dans ce blanc, que le transgresseur va trouver fin, sa fin aura lieu quand cela est écrit ici dans Daniel. Je lis encore de Daniel 9 au verset 27. Concernant le transgresseur, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables. Ça, cela ne concerne pas l'Église, cela concerne Israël. Quand l'alliance sera brisée, et ensuite, c'est ainsi que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Et on doit ici, avec ce verset, aller dans Matthieu 24, où le Seigneur aussi a parlé de ça et a montré ce qui va se passer avec Israël. Ici, nous l'avons. Matthieu 24, à partir du verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors, nous voyons de manière très exacte où est-ce que tout cela a sa place. Et je le répète encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, dans ce contexte des choses, tel que Dieu a établi et a mis à leur place, a ordonné les ministères des prophètes. C'est ainsi qu'il est aussi dans l'Église. Il a ordonné les ministères. On doit simplement le respecter. Alors que Paul commençait son ministère, le ministère de Pierre n'a pas arrêté, n'a pas cessé. Et quand Jean était sur l'île de Patmos, tous les autres ministères n'ont pas non plus été perdus. Tous n'ont pas perdu le ministère. Un ministère complète l'autre. Et chaque ministère a un certain domaine qu'il inclut dans son ministère. Et c'est peut-être raison. Il a un certain devoir qu'il inclut. C'est peut-être raison qu'il est écrit dans Éphésiens. Le chapitre 4, que les cinq ministères ont été établis dans l'Église pour que les saints soient préparés, pas seulement un ministère, mais il y a plusieurs ministères qui ont été établis. Et Paul était donc l'homme qui, principalement, a surtout parlé des divisions et des faux enseignements. Et il a vraiment été très sérieux avec les gens qui étaient responsables de ces choses. Ils ne pouvaient pas supporter des faux enseignements. Et bien, mes frères et sœurs, croyez-moi, je ne peux pas non plus les supporter. Je ne peux pas les supporter. C'est quelque chose d'étranger qui n'a pas sa place dans l'Église. Et quelque chose d'étranger est quelque chose qui dérange. Et pas seulement qui dérange, mais c'est quelque chose qui détruit. Et on n'en a pas besoin. L'Église doit expérimenter une guérison divine et réellement, dans la parole de la vérité, être sanctifiée. Ici, particulièrement, dans Timothée et dans Tite, Paul a toujours de nouveau parlé du vrai enseignement, de la sainte doctrine. De la sainte doctrine. Il a donc défendu la sainte doctrine ici dans Tite, chapitre 3. Ici, Paul écrit dans Tite chapitre 3, à partir du verset 10, éloigne-toi après un premier et un second avertissement de celui qui provoque des divisions. Éloigne-toi celui qui provoque des divisions. Au verset 11, tu sais qu'un tel homme, sache qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Donc, en allemand, c'est un pécheur. Remarquons-nous cela. Ça, c'est la description de ceux qui commettent des divisions par des enseignements étrangers. Ce sont des pécheurs. Ils pêchent. Et c'est peut-être raison que l'ordre saint nous a été accordé par le Seigneur de défendre le vrai enseignement et de prêcher la vraie parole. Et Dieu veille seulement sur sa parole. Il veille sur ceux qui prêchent sa parole aussi. Et il veille sur toute l'Église qui, de tout son cœur, reçoit sa vraie parole et de tout son cœur croit sa vraie parole. Et si nous voulons bien savoir les choses exactement, il n'y a pas longtemps, n'est-ce pas, le dernier week-end à Zurich, nous l'avons déjà mentionné, de telles personnes qui commettent des divisions rejettent ensuite les vrais serviteurs de Dieu. Ça, c'est le signe direct. Il y a deux choses qui ne peuvent pas être unies. C'est pas possible. Et c'est peut-être raison, bien une fois, il y a deux choses qui ne peuvent pas être ensemble. C'est pas possible, ça ne peut pas être ensemble. Et c'est peut-être raison, laissez-moi prononcer l'avertissement et l'exhortation que l'apôtre Jean a écrit ici aussi à cet endroit à tous nos frères et nos sœurs dans le monde entier et à nous aussi ici à tous. La troisième épître de Jean, le premier verset. L'ancien a Gueus, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Très bien. Le vrai amour de Dieu, ça c'est l'homme qui a le plus parlé de l'amour, peut-être plus que tous les autres ensemble. Et ensuite il écrit encore ici, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Que cela soit aussi ainsi avec nous. Que notre âme puisse prospérer. Que notre âme ne puisse que recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Car qu'il n'y ait pas dans un même cœur deux sortes de semences qui soient semées. Mais que notre cœur puisse recevoir seulement qu'une seule semence, c'est-à-dire la semence incorruptible, la véritable parole de Dieu. Vous savez, alors que le Seigneur avait semé la vraie parole, la vraie semence, l'adversaire est allé derrière lui et a semé dans le même champ sa semence, alors que tous dormaient. Nous voulons veiller et nous voulons prier et être attentifs à prêter le récemment à ce que la parole de Dieu dit et ne pas écouter ce que des hommes ont à dire. Et ensuite, au verset 3, j'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. Cette parole me plaît. De la vérité qui est en toi. De ce que Dieu est vérité, est véritable. Ça, nous le savons. Mais ici, il est parlé de la véracité d'un homme. Ici étaient les sentiments du Christ. La nature du Christ, la vie du Christ, dans un croyant, un vrai croyant, un homme de Dieu, de la manière dont tu marches dans la vérité, un témoignage reconnu, tel que tu marches dans la vérité, pas dans les interprétations, mais tu marches dans la vérité, pas dans les interprétations. Ensuite, au verset 4, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Dans la vérité. Dites Amen simplement. Il n'y a pas une plus grande joie pour un porteur de la parole de Dieu que ça. D'avoir cette joie que tous ceux qui écoutent la parole marchent dans la vérité, restent dans la parole, restent dans la vérité et marchent en elle et sont trouvés en elle. Ensuite, il continue ici. Et arrive au verset 9. Et au verset 9, nous voyons la disposition de ceux qui se détournent et leurs œuvres et leurs actions est révélée ici, dans la troisième épître de Jean, au verset 9. J'ai écrit quelques mots à l'église. Mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. Oui. Qu'est-ce que c'est ça? Ce grand homme de Dieu de l'époque. Si Paul vivait encore à cette époque, je ne sais pas. On dit que Jean a écrit l'Apocalypse dans les années 96, je ne sais pas. En tout cas, il dit ici, moi l'ancien, moi l'âgé, j'envoie. Ma salutation. Mais écoutez bien, bien-aimés amis, bien-aimés frères et sœurs dans le monde entier. Le bien-aimé disciple de Jésus, le frère, notre frère Jean, qui se reposait sur la poitrine du Seigneur, comme personne d'autre, qui avait été appelé par Dieu et qui avait reçu la grâce de Dieu, qui avait été donc envoyé sur l'île de Patmos pour être condamné, et qui a écrit les 22 chapitres de l'Apocalypse, qui parfaitement nous représente tout le conseil du salut de notre Dieu devant nos yeux. Cet homme qui avait été si béni de Dieu et privilégié par Dieu, à lui, les portes sont fermées parce qu'il y a un homme dans l'église qui veut être le premier, qui voulait être le premier et qui a simplement dit non, nous ne l'acceptons pas. Qui sont ces gens? Qui sont ces hommes qui agissent de cette manière? Ils sont faux dans leur cœur, faux dans leur enseignement, faux dans leurs actions. Ce grand homme de Dieu, vous savez, j'étais sur l'île de Patmos et j'ai lu les 22 chapitres de l'Apocalypse. Je me suis proposé dans les années 82 de passer une semaine là-bas et de lire l'Apocalypse. Je suis rentré et sorti. Il s'est toujours de nouveau dit au Seigneur, bien-aimé Seigneur, je ne suis ni Paul ni Jean, mais il y a une chose que je te demande. Je ne suis pas non plus frère Branham, mais il y a une chose que je te demande. Révèle-moi ce que tu as révélé autrefois, montré autrefois à Jean. Révèle-moi. Et je suis allé ici et là dans l'île de Patmos en pleurant. Il y avait comme ça un petit étang, un petit lac. J'ai tourné autour comme ça avec la Bible dans ma main. Je reviens à cette parole de bien-aimé frères et sœurs, de l'apôtre Jean. Jean, le bien-aimé disciple de Jésus, du Seigneur Jésus, qui a reçu la grâce de Dieu et à qui un tel mandat a été confié. L'ange de l'Éternel vient à lui, sur l'île de Patmos, pour lui révéler ce qui était prévu pour tous les autres serviteurs de Dieu. Et c'est ainsi qu'il lui a été montré tous les âges de l'Église et tout ce qui allait encore se passer et ce qui s'est déjà passé pour le représenter devant les yeux et pour nous le transmettre pour que nous puissions l'avoir. Et voilà quelqu'un qui veut être le premier dans l'Église. Et Jean écrit qu'il ne nous accepte. Il ne nous reçoit pas. Il ne nous accepte pas. Et cela ne suffit pas encore. Au verset 10, c'est pourquoi, si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous des méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères. Et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. Je l'ai lu de la Bible. Bien-aimés frères et sœurs, nous vivons dans le même temps. La même chose se passe. Il n'y a rien que de là. Des propos méchants qui sont écrits et envoyés. Ensuite, la porte se ferme. Alors, on n'a plus besoin de nous. Alors, on veut soi-même avoir toute la régie et déterminer sur le peuple. Et ici est le point. Aucun serviteur établi par Dieu, réellement, va vouloir est déterminé sur l'église. C'est Dieu qui détermine sur lui-même et sur son propre église, sa propre église. Et le Seigneur est toujours encore le chef de l'église. Et tous sont soumis à la tête, au chef. Ce que nous lisons ici a lieu aujourd'hui dans le monde entier. Tous les frères qui viennent avec des faux enseignements et des interprétations ferment leurs portes. Ils ferment leurs portes. Ils veulent pas qu'on les dérange dans ce qu'ils font. Ils veulent qu'on les laisse tranquilles et ils veulent dominer sur le peuple. Et ça, c'est le même esprit qui déjà a commencé avec la christianisation sous Constantin, que la puissance religieuse et politique s'est unie pour dominer sur les hommes et déterminer sur eux, les commander et les égarer. Donc, nous comprenons ici ce qui est écrit ici et nous voulons le recevoir de tout notre cœur. Nous ne pouvons pas changer les choses. Et ensuite, au verset 14, Jean écrit, « Bien-aimé, au verset 11, « Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui pratique le bien est de Dieu. » Le verset 11, « Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. » Donc, celui qui est de Dieu et qui se soumet à la conduite du Saint-Esprit. Et par exemple, même un ministère, même celui qui a réellement un ministère de Dieu, il va aussi respecter le ministère d'un autre serviteur de Dieu. Vous savez, alors que j'écoutais Frère Branham pour la première fois, j'étais convaincu que c'est un homme de Dieu. Mais je voulais savoir ce qu'il croit et ce qu'il enseigne. Ça, je le dis très exactement. Frère Branham a prêché chaque prédication qu'il a prêchée de la Bible, à partir de la Bible, et chaque prédication nous a ramené dans la Bible. Et nous remercions Dieu pour la véracité avec laquelle il a prêché la parole. Mais pour encore une fois tirer la comparaison, que cela nous soit représenté devant les yeux. Jean, le bien-aimé, le plus bien-aimé disciple de Jésus, du Seigneur Jésus, qui sur la croix regardait et que le Seigneur lui a dit, ici est ta mère et ici est ton fils. Il a remis Marie à Jean, un bien-aimé disciple de Jésus, celui de Patmos, reçoit la dernière révélation. Et ensuite, la porte se ferme parce que un certain Diotrephe veut être le premier homme. Le premier homme veut être la première personne. Et ça, c'est dans le message partout le cas des frères qui partout prétendent que c'est eux qui ont commencé l'œuvre. C'est eux qui ont commencé l'œuvre ici et là. Des gens qui prétendent ceci et cela. Et à cause de ça, ils veulent se valoir. Je ne suis pas payé par eux. Je le dis ouvertement. Alors, en tant que première chose, ils s'établissent en tant que pasteurs, ils se font appeler pasteurs, et ils trouvent la citation de Frère Branham, où il est dit que la dîme appartient au pasteur, et ensuite, tous doivent ne pas donner la dîme dans la caisse à l'entrée, mais la donner au pasteur. Et ensuite, la femme du pasteur, avec son sac avec... J'ai vu ça de mes propres yeux, Avec son panier, elle va à la caisse, à la boîte, je ne parle pas comme ça, par théorie, j'ai vu ça de mes propres yeux. Elle va et elle renverse toute la boîte dans son sac. J'ai habité chez un pasteur qui s'est fait appeler comme ça et j'ai vu comment cela se passe. Et c'est ainsi que des personnes, des croyants, sont rendus esclaves sans le savoir dans des églises et sont découpés de la véritable prédication que Dieu, dans ce temps, a donnée à son peuple. Jean a dû supporter ces choses. Moi aussi, je le supporte. Mais ça, je vous le dis déjà aujourd'hui. Jusqu'à la fin, cela ne restera pas ainsi. Le Seigneur va délivrer son peuple, exiger son peuple, l'appeler à sortir, le placer sous la conduite directe du Saint-Esprit et sous son influence divine. Et c'est ainsi qu'il accomplira ce que Paul a adressé aux Romains, dans Romains, le chapitre 15, au verset 16. Romains, le chapitre 15, à partir du verset 16. D'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, pour les païens, je m'acquitte du divin service de l'évangile de Dieu. Dans d'autres traditions, il est parlé de la sacrificature, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. Ça, c'est l'objectif, le but d'un ministère que Dieu, dans l'Église, a établi. Le verset 17. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ce qui regarde les choses de Dieu. Car je n'oserais pas mentionner une chose si Christ lui-même ne l'avait pas faite par moi. Est-ce que cela n'est pas merveilleux? Pas moi, Paul. C'est pas moi qui ai fait ceci ou bien qui ai fait cela. Mais c'est Christ qui l'a fait par moi. Il a fait que m'utiliser comme un ustensile. Il a pu que m'utiliser. Il a utilisé ma bouche. Il a pu utiliser ma bouche pour transmettre ses paroles. Il a utilisé mes mains pour qu'elles puissent être imposées aux malades, pour que les malades soient guéris. Je ne vais pas me glorifier, mais je vais simplement dire, tel que c'est le cas aussi, tel que c'est vrai, c'est Christ qui l'a fait par moi. Et avec un objectif, pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actions. Oh bien, mes frères et sœurs, c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de seulement sur le chemin de l'obéissance de la foi. C'est seulement comme ça, seulement sur le chemin de l'obéissance et de la foi, c'est seulement comme ça que nous atteindrons le but. Et ça, c'est l'objectif, le but du message de la fin des temps que Dieu, par sa grâce, nous a accordé. Qu'à la fin, une église sans tache et sans rides devant le Seigneur apparaisse, comme c'est écrit dans Éphésiens 5, au verset 27. Un troupeau racheté par le sang, sanctifié dans la parole de la vérité, rempli du Saint-Esprit, scellé du Saint-Esprit, après que nous ayons reçu la parole de la vérité. Comment le frère Branham le disait d'une manière si merveilleuse, si Dieu nous accorde son sceau, alors ce qu'il a introduit en nous, placé en nous, sera fermé, scellé. Et rien d'autre pourra encore être introduit dans notre cœur. C'est un signe que cela, de nouveau, doit avoir lieu maintenant. Bien, mon frère et soeur, il ne s'agit pas seulement de moi. Il s'agit de toi, il s'agit de l'Église, de Jésus-Christ, dans le monde entier. Plus de mélange ne doit exister et doit être toléré. Plus rien qui n'a pas son origine dans les Écritures et qui ne peut pas subsister devant Dieu. Aussi, au plus d'interprétation sur les 70 semaines d'années, si le retour du Christ, si Matthieu 25, sur les 7 sauts. Laissons tout écrit tel que c'est écrit et laissons accomplir les choses telles que Dieu l'a dit. Pourquoi interpréter? Ce n'est pas moi qui veille sur ta parole, c'est lui qui veille sur sa parole. C'est lui qui veille sur ta parole. Et parce que j'ai reçu sa parole dans mon cœur, il veille aussi sur moi. Et si tu as reçu sa parole dans ton cœur, il veille aussi sur toi à cause de ta parole que tu portes dans ton cœur. Alors, il n'y a plus de problème. Alors, tu peux accepter le ministère de Moïse, le ministère de Josué, le ministère de tous les prophètes et les mettre à leur place bibliquement. Recevoir aussi et mettre à sa place et ordonner le ministère de Jean-Baptiste, ordonner le ministère de Pierre, l'homme de la première, des premières heures, ordonner tout bibliquement. Qui le jour de la Pentecôte, le jour du fondement de l'Église, du Nouveau Testament, a reçu le privilège de tenir la première prédication avec cette parole. Répentez-vous, convertissez-vous et soyez baptisés chacun de vous au nom du Seigneur Jésus-Christ pour confirmer le pardon de vos péchés. C'est ainsi que vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et c'est ainsi que voilà l'effet par la puissance du Saint-Esprit de la prédication était si puissante que 3000 hommes lors de la première prédication et lors du premier baptême d'eau étaient présents. C'est ainsi que cela est écrit dans Actes des Apôtres chapitre 2 au verset 41. Bien-aimés frères et sœurs, cela doit être dit dans chaque réunion. Telle que la première prédication était, c'est ainsi que la dernière doit être. Aussi les deux dernières et la troisième, les troisièmes dernières. C'est ainsi que chaque prédication doit être, c'est-à-dire sous la conduite du Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre évangile. Il y a seulement des hommes qui font que tort, qui ont tordu dans l'évangile. Et Paul, dans Galates chapitre 1, a prononcé la malédiction sur tous ceux qui apportent un autre évangile en dehors de l'évangile que nous avons reçu prêché par le Saint-Esprit venu du haut des cieux. Comme c'est écrit dans 1 Pierre, c'est peut-être raison, mes deux frères et sœurs, avec tout le sérieux, nous devons revenir à Dieu et revenir à sa parole. Encore aujourd'hui, aussi aujourd'hui, une parole adressée à tous ceux qui ont remis leur vie au Seigneur, consacré leur vie au Seigneur, qui ont expérimenté une conversion, qui ont expérimenté le pardon de leurs péchés, qui l'ont accepté dans la foi et qui ont reçu la paix avec Dieu. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de vous laisser baptiser, bibliquement, de vous laisser baptiser. Et je sais que Dieu a déjà touché le cœur et continuera encore à le faire. Donc, pas seulement les premiers et les derniers, pas seulement la première et la dernière, mais chaque prédication sous la conduite du Saint-Esprit va contenir ce que la première et la dernière a contenu et va contenir. Donc, il s'agit de revenir à l'original, revenir à la parole de Dieu et toujours de nouveau poser la même question. Que dit les Écritures? Et si ensuite, une certaine pensée, une certaine voix veut comme ça vous chuchoter quelque chose et dire non, il ne s'agit pas de ça, ça ne dépend pas de ça. Non. Rejetez une telle voix et cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. L'adversaire va toujours venir. Il va toujours vouloir chuchoter quelque chose pour vous éloigner et vous éloigner de l'obéissance et du chemin de l'obéissance et de la foi et de l'obéissance de la foi pour vous attirer sur son propre chemin. Détachez-vous de lui et de son piège avec l'aide de Dieu et par la grâce de Dieu, permettez au Seigneur de vous apporter un accord avec lui et sa parole. C'est ainsi que le problème dans le domaine spirituel terminera, cessera. Dieu accordera pour cela sa grâce. Résumons ce que nous avons ici aujourd'hui et cela au nom du Seigneur. Considérer ou bien avions à dire, il faut que tout se repose sur deux ou trois témoins. Chaque verset biblique, chaque enseignement biblique doit être en accord avec l'Ancien et le Nouveau Testament, avec les prophètes et les apôtres, avec l'enseignement de Jésus-Christ, doit se reposer sur au moins deux ou trois versets avec l'enseignement des apôtres et encore pour mentionner cela parce que cela concerne le baptême. Si par exemple le Seigneur Jésus, dans Matthieu 28 dit, et baptisez-les dans le nom, alors je dois, n'est-ce pas, savoir le nom avant de pouvoir baptiser en lui. Dieu est notre Père. Et alors, en tant que notre Père au ciel, il s'est révélé dans son Fils seul engendré par lui, notre Seigneur, dans le Fils. Et le Fils a dit, celui qui me voit a vu le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Mais si le Seigneur dit, baptisez-les dans le nom du Père, alors nous devons au moins savoir et avoir les trois versets dans l'évangile de Jean, le chapitre 17, les lire, où le Fils dit, Père, j'ai révélé ton nom aux hommes que tu m'as donné du monde. Alors nous devons revenir à la parole de Dieu et dire, bien aimé Seigneur, ici tu as donné l'ordre missionnaire de baptiser en ton nom. Alors nous allons aussi à Actes des Apôtres, au jour du fondement de l'Église du Nouveau Testament. Et Pierre était présent alors que le Seigneur avait donné l'ordre missionnaire. Et voilà, il savait que Dieu, en tant que Père au ciel et dans son Fils, entendu par lui sur terre, s'était révélé. Et dans l'Église, par le Saint-Esprit, se révèle. Mais tout cela dans ce nom qui inclut tout, dans ce nom dans lequel tout, le salut, tout, le salut est contenu et la rédemption. C'est-à-dire, tu l'appelleras Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous. Et bien, mes frères et sœurs, c'est ainsi que nous avons le nom révélé de notre Dieu, le nom du Seigneur Jésus-Christ, Père, Fils et Saint-Esprit, Seigneur Jésus-Christ. Parfait. Ça ne peut pas être plus parfait que ça. Ça ne peut pas être nous être dit plus parfait que ça. Et nous remercions Dieu cela de tout notre cœur. Toujours nous devons nous poser cette question. Nous posons cette question. Que dit les Écritures? C'est comme ça que les apôtres ont prêché et ont baptisé. Et ça ne sert à personne de mentionner, par exemple, Actes des Apôtres 2, verset 42. Et il demeura dans l'enseignement des apôtres. Pour pouvoir demeurer, il faut d'abord revenir à l'enseignement des apôtres et être en lui, pour pouvoir demeurer en lui. Comme ça, justement, dans la théorie de lire Actes des Apôtres 2, verset 42, il demeurait et de croire ce qu'on veut, faire ce qu'on veut. Non, bien-aimés frères et sœurs, nous devons, dans l'obéissance de la foi, suivre le Seigneur et nous lui remettons tout le reste entre ses mains. Et ça, que nous puissions aussi faire la différence des choses pour toujours de cela. Là où un messager de Dieu n'est pas reçu, il s'agit dans ce lieu toujours de personnes qui se sont établies eux-mêmes pour dire dominer sur d'autres et pour régner sur d'autres, gouverner sur d'autres. Mais parmi nous, aucun homme a quelque chose à dire. Pour nous, parmi nous ici, c'est seulement la parole de Dieu qui a le mot, qui a tout à nous dire. Et seulement la volonté de Dieu doit être faite. Et que cela soit encore dit dans toute humilité, mais j'avais cela déjà dans le cœur hier. Vous savez que j'ai estimé et j'ai connu le ministère de frère Branham, et vraiment avec lui, j'étais profondément lié. J'étais le premier, le seul et unique Européen lors de son ensevelissement et ce qui s'est passé aussi autrefois. Mais alors que hier nous avions parlé de comment est-ce que le Seigneur avait ordonné à Moïse d'établir Josué, d'imposer les mains à Josué, subitement, la pensée m'est venue, je me suis rappelé de mon dernier entretien avec frère Branham et des dernières paroles et de la dernière question. Et la dernière question était à Louisville, au Kentucky, dans le parking, alors qu'il était en train de monter dans sa voiture, je lui ai demandé, frère Branham, est-ce que j'ai le droit de prier pour les malades? Et sa réponse était, frère Frank, chacun qui a été appelé par Dieu pour prêcher l'évangile a aussi été appelé pour prier pour les malades. Toi aussi. Et vous savez ce qui s'est passé en tant que prochaine chose? Il m'a imposé les mains avant de monter dans la voiture dans le parking à Louisville au Kentucky. Pour moi, c'était un grand jour hier. Après tant d'années, je me suis encore rappelé de ça. Qu'un homme de Dieu, et ça je le dis dans la crainte devant le Seigneur, un tel ministère, aucun apôtre l'avait, tel que soit Madame l'avait, jusqu'à dans nos jours d'aujourd'hui. C'était un résumé, une répétition de ce que Dieu avait fait déjà dans l'Ancien et le Nouveau Testament le signe direct du Fils de l'homme et tout ce qui et tous les différents contextes qui nous sont connus en grande partie. Et personne peut faire ce qui s'est passé si ce n'est que Dieu est avec lui. Et c'est ce que moi, le plus petit de tous, que Dieu a appelé, qu'à moi le moindre de tous, un tel privilège soit accordé de ne pas seulement avoir connu cet homme, mais d'avoir connu le Dieu de cet homme, le Dieu de cet homme, de connaître le Dieu de cet homme, et de ne pas seulement connaître son appel, mais aussi savoir qu'il y a eu aussi un appel le 2 avril 1962, et que cet homme, en ce qui concerne la dernière action que j'ai pu expérimenter, c'est qu'il m'a dit que celui qui est appelé à prêcher l'évangile est aussi appelé à prier pour les malades. Et ensuite, de m'imposer les mains avant de monter dans la voiture. Bien, mes frères et sœurs, nous n'avons pas suivi des fables habilement conçues. Nous vous avons prêché la parole de Dieu en tant que notre lampe sur notre sentier. Et de cette chose, aucun homme ne peut pas les planifier, les prévoir. Elles sont planifiées par Dieu, prévues par Dieu. Et c'est ainsi que nous sommes seulement une partie du plan du salut de notre Dieu. Le temps est passé. Que Dieu le Seigneur vous bénisse, nous bénisse et soit avec nous tous. Acceptez la parole de Dieu dans votre cœur. Et c'est lui qui fera tout le reste d'une manière merveilleuse. Achèvera son œuvre pour l'honneur de son nom. Amen. Nous voulons nous lever. Nous voulons nous lever et remercier Dieu le Seigneur. Chantons encore une fois tel que je suis sans rien de moi.
So muss es sein, nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein, o Gottes Lamm, ich komm, ich komm.
Nous conservons les têtes courbées. Je voudrais aussi aujourd'hui demander, est-ce que la parole de Dieu a pénétré votre cœur, notre cœur? Est-ce qu'il y a certains ici qui voudraient consacrer leur vie, qui ont consacré leur vie au Seigneur? Et est-ce qu'il y en a qui veulent consacrer leur vie au Seigneur? Est-ce qu'il y en a quelques-uns ici qui veulent se laisser baptiser? De deux frères et sœurs, nous le savons déjà qu'ils veulent se laisser baptiser. Peut-être qu'il y en a encore d'autres qui veulent faire ce pas de l'obéissance de la foi, du baptême d'eau. Pendant que nous gardons les têtes courbées, je voudrais demander, est-ce qu'il y en a encore quelques-uns ici qui veulent se laisser baptiser? Alors, levez s'il vous plaît les mains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, ça, c'est merveilleux. Venez s'il vous plaît devant, directement, venez devant. Venez s'il vous plaît directement devant. Nous allons encore prier pour vous. Oui, simplement ici devant. Viens voir s'il te plaît. Oui. Venez s'il vous plaît. Il a demandé quel âge il a. Il a 12 ans. Il lui a demandé s'il a consacré sa vie au Seigneur. Il a dit oui. Venez devant. Venez. Soyez la bienvenue. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Y aurait-il encore quelqu'un qui voudrait venir aujourd'hui, si vous entendez sa voix? Bien-aimés frères et sœurs, ça, c'est votre jour, le jour que le Seigneur a fait pour vous. Vous n'allez jamais oublier ce jour. Le baptême signifie l'alliance d'une bonne conscience avec Dieu par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, selon Romains chapitre 6, par l'immersion dans l'eau, cela symbolise que nous sommes ensevelis avec Christ parce que nous sommes crucifiés et morts avec lui, et d'être ressortis de l'eau, cela signifie que nous sommes, par sa grâce, ressuscités avec lui pour marcher en nouveauté de vie avec lui. Ça, c'est Dieu qui, dans sa parole, nous l'a représenté ainsi devant les yeux, pour que vous puissiez savoir, ce n'est pas seulement un acte comme ça extérieur, mais c'est un acte, un pas de la foi, de l'obéissance, un acte, un pas que les saintes écritures nous représentent devant les yeux. Parlez-vous l'allemand? Non. Quelle langue parlez-vous? Vous parlez le français? Oui.
Où se trouve un frère qui parle allemand et le français? Nous avons un frère ici qui parle deux langues. Pourquoi? Oh là là. Mais vous connaissez les Écritures? Vous croyez que Jésus est votre Sauveur et Seigneur? D'accord. Merci. Merci. Ja, also.
C'est une action biblique. Et vous pouvez regarder en arrière et montrer ce jour quand l'adversaire voudra vous attaquer et des épreuves et vous donner et vous éprouver et vous serez toujours éprouvé, mais vous pouvez dire, j'ai consacré ma vie à Dieu, je suis mort avec Christ. Je me suis laissé ensevelir avec lui par le baptême. Je suis racheté, je suis un enfant de Dieu. Et l'adversaire doit disparaître. Vous avez tous consacré votre vie au Seigneur. Tu as consacré ta vie au Seigneur. Oui, parles-tu l'allemand? Vous parlez le français? Ou bien le roumain?
C'est aussi le français? Ja? Ok, nachen. Dann haben Sie alles verstanden.
Donc je pense qu'ils ont tous bien compris. Nous voulons prier encore. Père Céleste, nous prions pour nos bien-aimés frères et nos bien-aimées sœurs. Que tu puisses les bénir et bénir le baptême, le service de baptême, bénir le frère Paul Schmidt qui va baptiser. Et que ta bénédiction accompagne nos bien-aimés frères et sœurs par ta grâce jusqu'à qu'ils passent de la foi à la vue de ce qu'ils ont cru. Loué et exalté sois-tu, Dieu éternel, fidèle. Alléluia. Amen. Encore quelques paroles. Pensez à nous dans vos prières. Pensez à tous ceux qui portent la parole. Et nous remettons à nos frères de l'Amérique du Sud des salutations. Nous sommes liés particulièrement avec eux, comme l'un des frères disait, dans toutes les tribus, plus de 60 dialectes seulement dans la région de l'Amazonie, et Dieu envoie quelqu'un qui est assez simple, qui est assez humble, et qui a assez de temps pour apprendre toutes ces différentes langues au moins, autant que cela est nécessaire pour pouvoir apporter à cette tribu la parole. Nous allons prier très particulièrement pour nos frères. Nous leur demandons maintenant de venir devant. Venez devant. Venez, vous trois, devant. Vous pouvez rester là. Restez là. Restez comme ça. Oui. Avant de finir, nous voulons prier pour ces trois frères d'une manière particulière. Que Dieu puisse les bénir. Venez, s'il vous plaît. Voilà. Ici, sur la première marche. Voilà. Tournez-vous comme ça vers l'église. Voilà. Comme ça, vers l'assemblée. Tournez-vous à l'assemblée. Voilà. Merci. Vous voyez nos trois frères. Nous allons prier pour eux. Que Dieu soit avec eux. Et que ce grand pays de l'Amérique du Sud, que Dieu puisse bénir cette région. Et ces frères, ces trois frères, et encore d'autres frères, desquels ils donneront un bon témoignage. Que Dieu aussi bénisse ses frères. Ici, il y a des frères qui connaissent tous mes vieux amis de plus de 30 ans. Oui, nous avons parlé ensemble de ça. Alors qu'il y a des années passées déjà, j'avais apporté le message au Brésil, au Venezuela, en Amérique du Sud et du Centre. Ils connaissent tous le frère Galdona, le frère Caladério et tous ses frères avec lesquels, ensemble, depuis beaucoup, beaucoup d'années déjà, nous avons partagé la précieuse parole de Dieu ensemble. Nous l'avons portée de pays en pays aussi dans la région du monde, dans cette région du monde. Et aujourd'hui, nos frères sont ici et nous allons prier pour eux et Dieu va les bénir. Prions ensemble. Père Céleste, nous te remercions de tout notre cœur pour nos frères que tu as bénis et que tu établis pour être une bénédiction pour d'autres. Ô grand Dieu, que l'onction du Saint-Esprit se repose sur eux, l'esprit de la sagesse et de la grâce, que cet esprit leur soit accordé, qu'ils puissent trouver ceux qui sont perdus, que tu puisses les utiliser. Bénis tout le pays, bénis toute l'Amérique du Sud et du Centre, bénis l'Amérique du Nord, bénis le monde entier, tous les peuples, toutes les langues et toutes les nations. Ô bien-aimé Seigneur, et sois avec nous tous, et que nous puissions apprendre les leçons de ce week-end. Seulement écouter ce qui vient de toi, prêter l'oreille à toi et à ta parole, et se fermer à toute influence. Ô bien-aimé Seigneur, veille sur nous, veille sur ta parole, et bénis ton peuple dans le monde entier. C'est là en Jésus-Christ, ce Saint nom merveilleux, le Saint nom merveilleux. Alléluia, alléluia. Le frère Schmidt vient aujourd'hui. Oui. Tu as traduit bien de mes frères? Oui. Tu es venu un peu. Mais le frère Schmidt va baptiser. Remets encore des salutations à tous et des souhaits de bénédiction. Oui. Oui. Qu'est-ce que je dois dire? Souhaiter des bénédictions et des salutations ont été déjà remis. Il s'agit seulement que nous puissions aussi mettre en pratique la parole de Dieu et que nos yeux soient fixés tels que nous l'avons tous entendu ici. Comme Rebecca avait regardé l'époux et nous tels que nous allons à la rencontre de notre époux éternel et que nous nous prosternons devant lui pour l'honneur de son nom. Amen. Amen. Oui. Les Écritures disent, celui qui a l'épouse, c'est l'époux. C'est ainsi dans le domaine terrestre, c'est ainsi aussi dans le domaine spirituel. Et celui qui appartient à l'épouse, il écoute l'appel de l'époux. C'est très simple. Tous les autres ne peuvent pas le faire. Seulement celui qui appartient à l'église épouse écoute la parole de l'époux et prête l'oreille à l'appel de l'époux. C'est pour cette raison que nous écoutons seulement ce que l'Esprit dit à l'Église. Et je voudrais aussi remettre des salutations en Tchèque, en Slovaquie, vraiment dans tous les pays, toute l'Europe. Et notre frère d'Atlanta remet aussi des salutations. Que Dieu le Seigneur vous bénisse là-bas. Le frère de Marseille et de tous les pays, les langues et les villes, que Dieu vous bénisse et soit avec vous. Nous estimons beaucoup que vous veniez et que ensemble nous puissions écouter la parole de Dieu et ainsi que le monde entier puisse savoir qu'il y a des hommes qui existent, qui croient la parole de l'heure et qui reçoivent le message et qui ont accepté le message, reçu le message de ce temps, et qu'il y a des hommes il y a une église du Seigneur sur terre qui existe, qui seulement reste dans la parole, demeure dans la parole et ne va pas au-delà de ce que les Écritures disent. Que tous les peuples, les langues et les nations soient bénies. Que l'Église soit bénie de tous les peuples, les langues et les nations. Et encore une fois, ces frères, que le Seigneur vous bénisse et soit avec vous et qu'il vous établisse pour être une bénédiction, une grande bénédiction. Chantons encore Alléluia, sois glorifié.
Alléluia, sei gepriesen. Alléluia, amen. Alléluia, sei gepriesen. Herr segne uns jetzt. Amen.
Amen.